entendu ce qu'il a dit. La fête est finie.
Allez, vite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin?
D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit et à quel moment.
Hello Yann.
Ouais, bonjour Alexandre.
Eh ben, je suis vraiment enchanté de te recevoir sur ce nouvel épisode de TechSource. Yann Gouvernec est derrière le micro de cet épisode. Ouais, donc vraiment, vraiment très content de te compter parmi les invités de cette nouvelle saison.
Plaisir de partager.
Beaucoup de choses à dire. Je rappelle le principe de l'épisode pour ceux qui nous écoutent. Et le principe de l'émission en général, c'est d'aller au-devant de ceux qui sont d'incroyables veilleurs, et notamment des veilleurs technologiques ou qui font une veille technologique, et d'aller leur demander les sources qu'ils utilisent pour mettre un peu la tech sur écoute. Et donc aujourd'hui, je te reçois, les gens vont bien comprendre qui tu es s'ils ne te connaissent pas déjà. On va commencer par un petit vrai ou faux. Je commence par peut-être le plus dur, qui est le moins évident, mais je fais exprès. Tu as un point commun avec Alain Juppé. Est-ce que tu trouveras
la coupe de cheveux.
Hein, ça fait peut-être un deuxième.
Je ne connais pas bien Alain Juppé. Donc,
2004.
Je ne suis pas responsable de la grève de 95. J'étais plutôt à la subir d'ailleurs. Mais bon, non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait.
2004, tu as lancé ton premier blog. Quand j'ai vu ça, je me suis rappelé de ça. Je me suis dit, tiens, c'est l'année de tous les blogs. Et donc,
tu oui.
Ouais, je me souviens qu'il avait lancé ça. Tu as.
Parce que oui, Juppé avait lancé un blog en 2004. Ouais, d'accord, j'étais pas au courant, tu vois.
Ouais, il était un peu précurseur. Ça m'avait un peu, ça avait un peu étonné tout le monde à l'époque.
Alors, ce blog, en fait, était. Une refonte de mon site web, hein, parce que mon site web, oui. Il date de 95, en fait.
Et oui, et c'est là où on va comprendre. Tu es assez pionnier sur au moins deux choses. Alors moi, j'ai deux dates, pionnier en 88, pionnier en 2000. Alors, en 88, tu es pionnier sur le CRM, je crois. Tu as lancé l'un des premiers CRM.
Ouais, c'était un peu après 88, ça c'était plutôt 90. La période de conception du CRM chez Unisys, c'était 91-92. Et je l'ai déployé ensuite de 92 à 95 en Angleterre, enfin dans le monde entier. Oui, donc ça, c'est un projet qui a pris pas mal de temps. En 88, c'est là que je suis rentré dans l'informatique, ouais, chez Unisys. Ouais. Je faisais mon premier job, c'était de dématérialiser les tarifs des commerciaux. Déjà, le sans-papier en 88.
Ouais. Ah ouais. Oui. Alors, en 2000, moi, j'ai noté que tu lances, t'es un précurseur aussi sur les web TV.
Oui, même, on a commencé même en 99. Mais avant, c'était Real Audio, on utilisait Real Audio. J'ai fait même les premiers podcasts aussi à cette époque-là, d'ailleurs, déjà.
Hyper intéressant, oui.
Et les premières web conférences aussi, en live, avec plusieurs... plusieurs salles en même temps, Marseille, wow. Lyon, Paris.
Sur le web, quoi. Ah oui, d'accord.
Oui, en 2000-2001. Ouais.
Vrai ou faux, tu aides les gens à expliquer des choses à leur boss.
Oui, alors ça, c'est effectivement, ça a été la collection qu'on a animée avec Hervé Cabla pendant de nombreuses années. Depuis, je crois que le premier bouquin, il date de 2010.
Ouais, des très bons bouquins, ouais.
Merci, c'est gentil. Les médias sociaux expliqués à mon boss. Enfin, il y a toute une série. La communication digitale expliquée à mon boss. Et après, le digital expliqué à mon boss. Là, c'était l'erreur stratégique, parce qu'on aurait dû appeler ça la transformation digitale expliquée à mon boss. Mais bon, peu importe. Et puis, il y a même eu le confinement expliqué à mon boss.
Ouais, j'ai vu ça, ouais. T'as fait le confinement, ouais.
Voilà, ça c'était le dernier. Et puis ça s'est arrêté. Voilà. Et le prochain bouquin d'ailleurs ne sera pas chez Kawa. Il sera dans une. Ce ne sera pas une collection à mon boss. Ce sera le marketing digital de @AZ chez Erol. Voilà.
Et ça arrive quand?
Et ça arrive début 2024. Il est déjà en précommande sur le site d'Erol, sur Amazon, sur la Fnac.
Ah bah, on mettra le lien en show notes. Ouais. Ouais, oui. On poussera. Donc, nouveau bouquin. Absolument. En perspective. pour toi. Et puis, on finit par un dernier vrai ou faux. Ah, j'en ai deux. Tu es directeur de programme de quelque chose à Grenoble.
Ah, c'est un faux, hélas, parce que je n'y suis plus depuis
C'est un faux.
Plus de 4 ans et demi. Mais je continue d'enseigner, notamment à Paris School of Business, qui est l'ancien EEG, MBA ESG, ça fait 17 ans que j'y enseigne. Et puis, j'enseigne également à Omnes Éducation, puisque j'ai animé un cours en ligne sur l'utilisation des IA génératives dans la création de contenu. Voilà, ouais, pour tout le groupe Omnes, ils sont d'ailleurs en train de plancher sur les exercices de groupe. Ils sont en train de faire un site WordPress. Je leur ai donné plein d'actions à faire avec les médias, avec les IA génératives pour faire un site produit. Voilà. Et après, je leur demande de prendre du recul par rapport à ça pour voir si ça fait gagner du temps. Alors, pour leur donner des métriques, je leur ai dit combien ça prenez de temps pour faire du contenu à la main et avec un cerveau.
Ouais, pour un point de comparaison. Ouais. Ah, on est en plein dans le sujet. Ouais. Et alors, dernier petit vrai ou faux, tu adores la photo. Je ne pense pas trop me planter là-dessus.
Non, effectivement. Bah, on verra dans les projets en cours et les projets de l'année prochaine. Bah, c'est effectivement, je fais de la photo depuis très longtemps maintenant, mais depuis que je suis tout petit en fait. Mais en professionnel depuis un peu plus d'un an. Je fais des portraits en studio et voilà, et je voudrais développer cette activité. Ça va être un gros projet. Là.
Super, petite news alors. alors, bah, on va commencer par le petit gimmick de l'émission. Qu'est-ce que tu as sur la home screen de ton téléphone portable, alors ton iPhone a priori?
Oui, c'est un iPhone. C'est un iPhone 14 parce que j'ai fait le changer. Alors, en fait, c'est le foutoir. C'est marrant parce que je suis très ordonné, tout est rangé chez moi, mais alors mon téléphone, c'est vraiment le foutoir. Alors, j'ai groupé quand même, j'ai quelques groupes d'applications. Alors, j'ai surtout toutes mes applications de productivité bureautique, Pages, j'ai toutes les applications Microsoft, Word, Excel, etc.
C'est sous dossier ou c'est éclaté un peu partout?
Non, ça, c'est très bien rangé dans un groupe. Ah. Voilà, j'ai Keynote, etc. En fait, j'utilise beaucoup Pages parce que ça m'arrive souvent d'écrire sur mon téléphone. Voilà, il y a une partie du bouquin qui est écrite.
Ah, intéressant, tu passes pas par Notes, tu passes par Pages. Ouais.
Non, je n'utilise pas Notes. Non, ce n'est pas assez puissant. Non. Pages est beaucoup plus puissant. Voilà, le bouquin a été écrit sur Pages et après basculé sur Word d'ailleurs. J'utilise Word également, la version Word mobile est tout à fait utilisable maintenant. C'est bien, Pages pour ça. Après, pour faire des documents complexes, tu peux oublier. Voilà.
Ouais, ok.
Mais c'est joli, mais c'est pas encore au niveau de Word. Il y a des choses qu'on sait pas faire avec ça, c'est compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées. Ouais. Mais c'est joli. Et pour écrire un article simple ou une contribution dans un bouquin, je l'utilise beaucoup. Voilà, j'ai Evernote. Que j'ai depuis.
Ah, okay.
Depuis. Ouais. Je sais, tout le monde me dit qu'il ne faut plus utiliser Evernote.
J'en connais plein qui utilisent Evernote encore. Ouais. Hein. C'est généralement bien, des gens qui ont commencé au début. Hein. Ouais.
C'est un de mes outils d'ailleurs pivot pour la veille parce que je stocke toutes mes pages. Il y a un outil très pratique qui permet de dépouiller une page web de toutes ces pubs et toutes les falbalas et qui permet de le stocker dans Evernote et il garde le lien. Donc, c'est souvent comme ça que je fais mes veilles et c'est très pratique.
Super.
Voilà. Bon, je regarde mon téléphone. J'ai un Kindle aussi qui est sur mon téléphone parce que je lis tous mes livres. Je lis tous les livres en électronique parce que j'ai de mauvais yeux et que ça me fait moins mal aux yeux parce que l'écran est rétro éclairé et du coup, j'ai moins mal aux yeux parce que dès que je lis dans le noir, le papier... J'aime bien lire sur le papier, mais ça me fait mal aux yeux, donc je ne le fais pas. J'ai toutes mes banques, parce que je suis très riche. J'ai un groupe d'icônes pour voyager, même si l'essentiel de mon voyage, c'est de faire de traverser Paris en vélo. Mais enfin bon, j'ai tout un groupe d'icônes pour la photo et la vidéo, avec Lightroom,
oui, ce que j'allais dire.
Avec YouTube, avec Flickr surtout, que j'utilise beaucoup, et puis photo... Surtout avec le nouvel iPhone, il est vraiment super pour les photos et la vidéo. Alors, je fais aussi des vidéos. J'utilise mon iPhone pour les vidéos, j'utilise pour les plans larges. C'est vraiment très très bien, de mieux en mieux. Et j'ai une, alors ça c'est aussi lié à la veille, j'ai un groupe d'icônes liées aux journaux, parce que je suis abonné au Monde, au Wall Street Journal, au New York Times et aux Échos. Donc c'est un peu la vieille économie, mais vieille technologie.
Ouais, la presse, ouais.
Parce que je pense qu'on va y revenir, c'est à mon avis, on va en avoir de plus en plus besoin. Il faudrait qu'ils évitent de trop regarder les IA génératives, parce que ce qu'on leur demande, c'est justement de ne pas faire ça. Mais bon, peu importe. Pour l'instant, c'est encore sérieux. Tant que c'est sérieux, on lit et on garde, parce que ce sont des sources qui sont fiables et qui permettent de retourner aux sources ou de mieux comprendre les choses sans passer trop de temps à essayer de décoder des sources qui sont peu fiables.
Ouais.
Et malheureusement, ce qu'on a souvent sur les médias sociaux. Et puis, j'ai des icônes que j'utilise beaucoup. J'ai une icône qui s'appelle Scanner Mini, qui permet de scanner des pages. Une icône Voice Record Pro qui permet de faire des enregistrements.
Okay. Donc,
c'est comme ça que je fais mes interviews, en fait. Ça marche super bien.
Voice
ça.
Record Pro, ouais. D'accord, ça doit être.
Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment top. Ça, je couple ça avec une application Adobe qui permet de nettoyer les podcasts et c'est vraiment
Adobe salon, Podcast, c'est nickel.
Pardon?
Adobe Podcast, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ah, c'est podcast.adobe.com. Enfin,
ouais. Ah oui.
Alors j'ai une icône Blue OS parce que j'ai tout un tas de d'appareils. C'est NAD qui fait ça. Enfin, c'est une technologie NAD de musique qui est couplée à Cobuzz. Qui est un service assez haut de gamme de musique en ligne, avec beaucoup de classiques, de jazz, etc. Et de néo-classiques, parce que j'écoute beaucoup de néo-classiques, comme Max Richter ou les Allemands, Pachburk, Nils Fromm, etc. Voilà, et puis...
les quatre icônes du bas, t'as quoi en fait? T'as téléphone, j'imagine
Ah oui. Ah, si, j'ai oublié Outdoors aussi, parce que j'utilise ça en permanence. J'ai ma montre connectée, qui a été conseillée d'ailleurs par mon co-auteur, Hubert Kratirov. Et je croyais que ça allait être un gadget et que j'allais la revendre tout de suite. Et ça fait 6 ans que je l'ai. Et c'est plutôt, je vais revendre ma Breitling plutôt. Parce que c'est vraiment génial. Ouais, parce que grâce à ça, je fais de l'exercice tous les jours. Quoi. C'est vraiment bien.
Et c'est laquelle que tu as comme montre?
C'est une Apple Watch. Alors, moi, je l'ai.
Ah oui, l'Apple Watch, ouais.
Ouais, j'ai changé, j'ai pris une 8 là, parce que l'autre était un peu morte. Et j'utilise Strava pour calculer mes itinéraires et stocker mes kilomètres. Et en bas, ben, j'ai tout bêtement l'icône de téléphone qui ne sert quasiment plus jamais.
C'est vrai.
Parce que je suis tout le temps sur WhatsApp en fait. Mais WhatsApp sur mon ordinateur plus que sur mon téléphone d'ailleurs. Enfin, les deux.
Et plus desktop quand même.
Ouais, je suis beaucoup sur le desktop, ouais, parce que je suis beaucoup au bureau. J'ai Safari, et puis j'ai le mail, que je n'utilise aussi le moins possible, parce que j'aime pas ça. Et les SMS, les messageries, que j'utilise en permanence. Je suis un fou de messagerie instantanée, en fait. J'aime pas le mail, donc j'utilise les messageries instantanées, les messages SMS.
Etc. Direct, ouais. Voilà. Et tu as ChatGPT, il n'y a pas ChatGPT quelque part dans tout ça? Non, tu...
Non, ChatGPT...
Tu ne joues pas trop avec.
Ce n'est pas pour moi un outil important. C'est un outil qui est important de comprendre, mais ce n'est pas pour moi un outil important et ce n'est pas assez abouti. Mais bon,
c'est intéressant.
Le jour où ça sera abouti, ben, je pourrais très bien aller bêcher mes fraises, hein, parce que tu n'aurais plus de travail. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas utilisable dans mon métier, non. À chaque fois que j'ai essayé de l'utiliser dans un cadre concret, on va y revenir quand on parlera des outils, c'est une machine à faire perdre du temps. Quoi. C'est parce que
ça prend plus à maîtriser, c'est ça.
Contenu halluciné que je vais passer toute ma vie à corriger des choses qui, de toute façon, sont dans ma tête. Alors, je vais vous expliquer comment, justement, on écrit du contenu rapide, mais qui ne soit pas du n'importe quoi. Parce que c'est du n'importe quoi. Alors attention, moi je suis plutôt un pragmatique, donc je ne dénigre pas, ça sert à rien. C'est clair que c'est une avancée impressionnante, technologiquement parlant. D'un point de vue intellectuel, ça, c'est une autre affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est sûr que c'est une avancée technologique. Après, trop tôt, il est trop tôt pour, ça, pour prédire l'usage. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça va prendre du temps. Et puis, je pense qu'il y aura encore quelques hauts et quelques bas, et que l'année prochaine, on traversera un peu l'hiver, je pense. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que c'est comme ça, on pourra travailler un peu plus au calme, parce que c'est pénible quoi. Quand tout le monde a un avis sur tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut retourner à la presse, pour retourner aux auteurs qui font autorité, parce que
il y a
des gens qui racontent n'importe quoi sur tout.
On peut penser à un article d'Étienne Klein ou une interview de physicien sur quantique qui disait que les gens ont de plus en plus un avis sur tout et sur n'importe quoi sans aucune expertise et donnent ça d'une facilité incroyable. Et il y a un terme technique pour qualifier ces gens-là.
C'est tout le monde.
Ouais, ça doit être ça, être les psychologues.
C'est sûr qu'il vaut mieux éviter de parler quand on ne sait pas. Et puis, il faut tester. Moi, j'aime bien prendre les choses au pied de la lettre. Par exemple, j'ai lu plein de choses sur les prompts dans ChatGPT.
Ouais.
Comme quoi, il fallait être scientifique, il y avait la personne qui parle, le ton, etc. Et alors, j'ai vu des schémas super bien faits qui expliquaient, qui cassait le prompt en morceaux et qui expliquait comment créer une liste de contenus pertinents pour un secteur.
Ouais, on va beaucoup passer
En demandant quel ton, quel objectif, en parlant de telle personne, avec tel style, patati, patata. Et donc, j'ai pris au pied de la lettre et j'ai fait une démonstration, un tutoriel. Enfin, j'ai pris le prompt scientifique et j'ai comparé à un prompt pourri. J'ai pas vu la différence en fait. Là, je dirais, moi je suis pragmatique. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Bon, ça marche pas. Voilà, donc ça sert à rien. Donc ça sert à rien de perdre du temps en tout cas. Autant faire un truc pourri qui arrive à un résultat pourri. Et d'autant plus qu'à la fin, il te sort une liste de contenus soi-disant qui va soi-disant positionner ta marque en SEO, mais il n'y a aucun élément pour valoriser ça. Donc, et c'est pas du tout comme ça qu'on travaille en SEO. Donc voilà, donc c'est faut être pragmatique. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul par rapport à ces outils. C'est
donc pas de chat GPT sur ta home screen quoi. On aura compris que c'est pas c'est pas dans les boutons prioritaires quoi.
Non, par contre, je dois avoir Discord et j'utilise Midjourney dans certaines conditions. Je vais y revenir parce que ça évolue. Ça évolue au fil du temps.
Hyper intéressant. Alors ça, c'était sur les outils qui sont sur ta home screen, mais fatalement, en fait, cette partie de l'émission, quand on l'aborde, ça spoil tout le reste parce que c'est hyper stratégique, la home screen. Hein. C'est comme si je te demandais, je ne le fais pas aux invités, c'est pour être intéressant un jour que je le fasse, mais le même exercice sur le desktop, alors là, on y passerait 2 heures, mais...
Alors là, si tu voyais mon desktop, je crois que tu aurais une crise cardiaque parce que j'ai une taskbar, ça fait marrer tout le monde.
Ouais.
Parce que j'ai combien 2, 4, tiens, on va faire plus rapidement parce qu'on va compter par 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 icônes.
Ouais. Sont-elles tout le temps présentes ? C'est tout le temps les mêmes
tout
ou
le temps.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, tout le temps quasiment sur tous mes ordinateurs et j'en ai 5.
Ah oui. Oui, d'accord. Ouais.
Ouais.
C'est hyper intéressant le desktop. Le desktop, tu trouves plein de choses en fait. C'est un peu la bibliothèque mentale des veilleurs.
En fait, ça explique bien comment je travaille. C'est que et comment, à mon avis, il faut utiliser ces outils, y compris les outils IA ou non, ou les outils NLP ou autre. C'est il faut utiliser les outils de manière discrète. C'est-à-dire, il faut utiliser les outils pour ce qu'ils font de mieux. Les outils qui font tout, papa, maman, qui repeignent le plafond, bon, ça ne marche pas, ça. C'est pas que ça marche pas, mais quand on essaye de tout faire, on fait tout mal. Donc, il faut avoir des outils qui sont discrets. Et des fois, pour faire une chose, tu peux avoir 3 ou 4 outils. Par exemple, pour écrire un article, il se peut très bien que je commence dans Dictate, que je continue dans Smultron, qui est mon éditeur de texte, parce que comme ça, je suis pas embarrassé par les falbalas. Puis après, comme je vais déplacer, je vais le mettre dans Pages. Et puis après, je vais le mettre dans Word parce que c'est mieux. Et puis, à la fin de compte, il finira dans WordPress. Voilà, chaque outil.
Ouais, tu prends le meilleur de chaque outil, quoi.
Je perds moins de temps à changer d'outil qu'à essayer de faire faire tout à un outil qui ne sait pas bien faire, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. En plus, quand ces outils sont issus de startups qui viennent de se lancer, généralement, il y a des choses qui ne sont pas au point. Et toi, en fait, tu es cobaye là-dessus, quoi. C'est...
Ouais, j'essaye des trucs. Des fois, si ce n'est pas au point, on regarde. Et puis, on verra plus tard. Mais quand ça m'est arrivé d'essayer des choses très pertinentes, comme Trint, par exemple.
Ah oui, c'est un logiciel de traduction.
De transcription.
Ouais.
Bon, ça, c'est vraiment extraordinaire. Malheureusement, c'est trop cher.
C'est cher.
Et maintenant, ouais. Word fait la même chose. Donc, l'année prochaine, on va basculer sur Word. Dommage, parce que Trint est
avec
vraiment
très
bien. C'est vraiment super bien fait. Voilà.
Donc ça, c'était un peu la vue d'ensemble de toutes les apps type embarquées sur ton téléphone. En termes de lecture, alors t'as déjà parlé de quelques sources payantes de presse, et ça c'est une insight qui est intéressante parce que sur les 5 nouveaux épisodes que j'ai fait, il y a un vrai retour à la presse. Non, chez tout le monde.
Ouais.
C'est un vrai retour de les réseaux, les blogs, les flux RSS, enfin, oui, il y a des choses, mais finalement, quand tu as un vrai besoin de retour à de la source, tu payes. Quoi. Tu payes à...
Alors, je ne mettrai pas les blogs des personnes. En fait, il n'y en a plus des blogs, il n'y en a plus que quelques-uns.
Oui.
Donc, c'est assez facile, que ce soit... David Fayon, enfin les gens qui sont essentiellement dans mon réseau, Écran Mobile, Fred Cavazza, des gens comme ça, The Village, tous les gens qui sont dans le réseau du contenu 100% humain, on y reviendra tout à l'heure.
Ouais.
Ce sont des sources fiables. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais au moins, ce sont des gens qui sont sérieux et qui travaillent. Ils
ont une démarche journalistique quoi, derrière leur blog, c'est ça.
Parfois meilleure même que les journalistes, parce qu'ils sont plus... Ouais. Par exemple, quand ce matin, il y avait un article des Échos qui mélangeait le NLP et les IA génératives. Bon, on mélange les choux et les carottes. Donc, ils ne savent pas de quoi ils parlent, en fait. Les Échos, ils sont bons pour aller parler de finance ou de... Mais sur l'IA générative, ils ne savent même pas de quoi ça parle. Ils confondent tout. Ils confondent les moteurs de recherche et les IA génératives. Bon, c'est dommageable, d'ailleurs.
Ah,
enfin,
oui.
C'est comme ça. Donc, ils ne sont pas compétents. Par contre, Wall Street Journal va être très compétent dans les domaines techno. J'ai oublié son nom. Stern, hein, c'est une dame, là, j'ai oublié son prénom, qui fait les articles, elle est super bonne.
Oui, il y a des blogueurs.
Le Guardian est bon aussi, mais Le Monde est bon et pas mauvais, mais plus philosophique et moins techno. Mais bon, voilà, je suis abonné au Monde aussi. Hein, donc, j'ai un journal du soir, un journal du matin. Moi, j'ai jamais arrêté de lire la presse, hein, jamais. Le Wall Street Journal, ça fait plus de 15 ans que je le lis. Le New York Times, un peu moins. Le Monde, je l'achetais avant, mais là, je me suis abonné. Et les Échos, je suis abonné depuis des années et des années. Donc, c'est pour moi
et tout important. Tout ce qui est HBR, MIT Review, est-ce que ça dépend pas trop?
Oui, à l'occasion, quand un auteur a sorti quelque chose, comme Joe Pine a sorti un article il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir, mais c'est plus facile. À la limite, je préfère parler à Joe Pine que les lire son article de la Harvard Business Review. Parce que pour publier un article sur Harvard Business Review, il faut attendre 2 ans ou 3 ans avant qu'il soit publié. Donc, le temps qu'il sorte, il s'est passé beaucoup d'eau sous les ponts. Hein.
J'avais pas en tête le délai.
C'est pas toujours très à jour. Donc, beaucoup d'articles qui sont... Mais oui, si, c'est quand même intéressant. Il y a des choses
qui revient restent, d'ailleurs. Chez les invités, c'est les deux trucs qui reviennent souvent sur l'INO.
Ouais, ça dépend quoi. Il y a eu des articles. Je sais qu'il y a un article de Ron Ashkenaz qui est sur la transformation et qui dit en substance que personne ne comprend ce que c'est une transformation, que je cite tout le temps et qui est pourtant très vieux. Et je crois qu'on pourra le ressortir dans 20 ans ou 30 ans parce que les gens ne savent pas ce que c'est une transformation. Donc, c'est intéressant parce que c'est des articles fondateurs. En une phrase, il te fait réfléchir et il te fait prendre un peu de recul. C'est vraiment bien. Oui, mais je suis pas, j'ai été abonné à la HB1 il y a longtemps, mais souvent c'est des articles sont très anciens, ils sont moins intéressants. Le monde va trop vite pour eux, je pense. Ou c'est eux qui vont trop lentement pour le monde. Mais même si c'est une bonne chose d'essayer de le ralentir un peu, parce que on voit cette année là, l'emballement qu'il y a eu sur l'IA générative, et là on a perdu pied, quoi. Enfin, je veux dire, on a perdu même la tête, je crois, tout bêtement.
Ouais, ouais. Oh, bah, chaque année on a eu notre lot de tendances.
Ah, oui, c'est du délire, là. Ça devient du délire. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter.
L'année dernière, c'était quoi? C'était Web3.
Bientôt, Sam Altman va remplacer Dieu le Père si ça continue. Il faut arrêter, quoi.
Présidence des États-Unis. Ouais. On entend tout.
Sam Altman, président, ouais. C'est ça. Aïe, aïe, aïe.
Mais on n'est pas à l'abri avec ce qui se passe aux États-Unis. Là.
Ouais.
Bon. Il y a énormément de choses à dire sur tout ça. Donc ouais, alors l'insight à avoir, c'est que les gens retournent sur des sources plus éditées. Quand je dis les gens, je parle des veilleurs, je parle de ceux qui, comme toi, moi, on essaye de trouver du signal dans ce monde de bruit. Et c'est vrai que donc presse, blog spécialisé ou de très très bonne tenue, d'en citer quelques-uns. Par exemple, quand aujourd'hui on a envie de pas se faire larguer sur tout ce qui est technologie émergente, toute technologie en général. Je dis pas la tech, parce que la tech souvent on confond. La tech c'est plutôt start-up, mais les technologies, il y a des super blogs qui croisent tech, marketing. Alors évidemment, il y a le tien qui est Denari, il y a celui de Fred aussi, Cavazza,
Fred Cavazza, il y a Frédéric Canvet aussi, il y a Thomas Gerbeau.
Thomas Gerbeau.
Enfin, il y en a plein, d'ailleurs, la plupart, écran mobile, il y en a plein qui sont d'ailleurs dans notre collectif 100% humain.
Oui, j'ai vu ça. J'ai vu le motto que vous avez écrit, que vous engagez à ne pas utiliser l'IA, enfin la Gen AI, l'IA générative. Ouais. Okay.
Alors, pas pour les images, on y reviendra, parce que même s'il y a une exception, évolution, mais pour l'écriture des textes, bah oui. Ah oui, ça ne me paraît pas pertinent.
Ouais.
Parce que sinon, ça sert à quoi que je lise un article qui a été écrit par moi, si c'est une machine qui l'a écrit. Je vais peut-être le donner à lire par une machine aussi, tant qu'on y est.
Et c'est les machines qui vont se parler entre elles bientôt. Bah oui.
Bah oui, alors ma prédiction, a priori, j'ai encore gagné là. Ma prédiction d'il y a 3 ans, parce que l'IA générative, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on la commence à la voir depuis 3 ans. J'avais fait un webinaire avec Push Engage et j'avais dit ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plein de gens qui vont créer des contenus SEO avec des machines. Bingo, j'ai gagné. Au 1er janvier, c'était mais vraiment du jour au lendemain. Hein. Tous les jours, on me contactait pour me mettre des backlinks avec des contenus originaux, fermez les guillemets, des contenus fabriqués à la main dans des pays low cost. Maintenant, et du jour au lendemain, en 1er janvier, c'est devenu acheter mon application IA générative. Et comme ça ne doit pas marcher, ils sont en train de se fatiguer là, en ce moment. Mais bon, donc ce qui se passe, c'est que en fait, ils génèrent The Verge en a fait d'ailleurs un article. Il y a des fermes de contenu qui se créent avec des contenus dits SEO générés non plus par des hommes low cost, mais par des machines et qui ont au rythme de 1200 par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est sur Visionary Marketing, je suis à 2500 articles au total. J'ai plus les vieux articles, donc c'est uniquement depuis 2004 et j'en ai viré 500. Allez. Mais bon, 1200 par jour. C'est comme si je travaillais 10 ans, quoi. Enfin, voilà, c'est à peu près ça. C'est n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ça va pourrir les moteurs de recherche. C'est bon, c'est déjà bien parti. Hein. De toute façon, le moteur de recherche principal n'en est déjà plus un depuis longtemps. Donc, ça va finir par disparaître. Enfin, s'il continue comme ça, il va disparaître. Ils seront eux-mêmes tirés dans le pied s'ils n'arrivent pas à sortir les contenus fabriqués par l'IA. Deuxièmement, je pense que ça arrivera, ça commence à arriver parce que des sociétés comme Turnitin, c'est des Néerlandais qui font ça dans les écoles, ils font des outils de contrôle de plagiat. Ils sont déjà capables de contrôler, pas avec 100% de certitude, mais avec un bon paquet de certitude, les contenus générés par IA, ou au moins partiellement générés par IA. Donc, de toute façon, ces contenus-là ont une durée de péremption. Puis ensuite, comme il y aura un énorme doute par rapport à qui a écrit, si c'est écrit par une machine, quelle est l'autorité de la machine ? Zéro. Zéro. Enfin, sauf si on finit par être gouverné par des machines. À ce moment-là, effectivement, l'autorité de la machine sera grande. Mais pour l'instant, rien, zéro. Donc, on va avoir, et ce que tu me dis me le confirme, une nécessité de retourner à l'autorité de l'auteur, et qui est un auteur avec autorité, c'est quelqu'un qui parle et qu'on connaît, ou qui parle du haut de, avec modestie bien sûr, du haut de son expertise, et qui parle pas de ce qu'il ne connaît pas. C'est important aussi. Moi, j'irai jamais écrire. Même quand j'écris par exemple sur des choses sur le grand public, c'est toujours au travers d'un expert, parce que je ne suis pas un expert du grand public. Donc quand c'est un sujet que je ne connais pas, je ne parle pas en mon nom personnel, je vais faire parler quelqu'un d'autre. Donc on aura besoin de retrouver cette autorité de l'auteur. C'est le média aussi, à condition qu'il s'engage à ne pas écrire avec l'IA, ça c'est très important. Et aussi de faire parler des experts, voilà, parce que des experts, des professionnels, parce que ça, c'est pas rationnel, donc comme c'est pas rationnel, c'est pas un problème à résoudre, c'est pas une IA générative qui le fera, quoi. Voilà.
Donc, ça, après, je pense sur le côté s'interdire d'écrire des choses avec l'IA générative, je pense à une interview d'Alexandre Astier là, qui a eu il y a pas longtemps, créateur de Kaamelott, qui disait qu'il avait utilisé. Il avait créé un petit robot il y a quelques années pour écrire les scripts. Alors, ce n'était pas pour écrire les scripts de Kaamelott, mais c'était pour lui rappeler en fait les arcs narratifs, parce que ça partait dans tous les sens et que finalement, la connaissance et l'univers qu'il posait étaient compliqués.
Ouais.
Donc, il l'utilisait pour écrire, mais pas au sens contenu, mais plus au sens petit robot, aide-moi à me dire où j'en suis, quoi. Donc peut-être que c'est ça l'avenir, un avenir un peu possible, éthique, je ne sais pas, du content marketing. Ce n'est pas de laisser la plume, mais c'est peut-être de l'avoir un peu en back-office en disant…
Alors, moi, je travaille essentiellement en B2B.
Ouais.
C'est l'expertise, c'est l'expérience sur des sujets assez pointus, qui sont très peu documentés, où il y a des experts qui ne sont souvent pas d'accord entre eux et qui viennent expliquer des points de vue. Donc, où on a des problématiques qui sont des problématiques clients, qui sont liées à des circonstances qui sont bien particulières et qui diffèrent de client en client. Donc, en gros, ce n'est pas automatisable, point. Après, si je vais faire du contenu basique sur les pots de yaourt, OK. Ça, tout le monde sait ce que c'est un pot de yaourt. Il y a plein de documents. Il a bouffé plein de pages web sur le sujet. OK, on s'en fout, en fait, c'est pas intéressant. C'est des sujets qui sont plus qui seront plus facilement remplacés effectivement par des machines. Et paradoxalement, la question que je me pose, c'est si ces IA génératives, finalement, elles ont un gros défaut, en même temps qui est leur force, c'est des outils statistiques.
Oui.
Pas que, parce que c'est un peu lapidaire de dire ça, mais auto-apprenant, et qui arrive à faire un peu des cadavres exquis, en fait. C'est un peu ça, c'est des cadavres exquis.
Ouais.
On met des bouts de trucs les uns au bout des autres, et ça finit par avoir un sens.
De l'hallucination poétique.
Et je me demande, en fait, si les métiers créatifs ne sont pas les premiers qui seront disruptés, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la créativité ? On prend des bouts de trucs, on les mélange, on les bricole. La créativité, ça peut être fait par une machine. C'est affreux de dire ça, mais je suis
désolé. Oui, c'est affreux, mais c'est vrai que c'est les premiers cas d'usage là, qu'on voit.
Voilà.
C'est souvent les...
Par contre, je suis allé sur le terrain, j'ai vendu tel produit, il s'est passé telle chose, et les circonstances, c'était ça. Là, la machine, zéro, elle ne peut pas faire parce qu'elle n'a pas l'expérience.
Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que quand tu prends le B2B, finalement, le cœur du B2B, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais c'est quand même le trust, c'est quand même la confiance, quoi, tu vois.
Exactement.
Et ça, cette confiance humain à humain, cas particulier, ce que tu dis, c'est-à-dire le B2B, c'est quand même beaucoup de cas singuliers. Ouais. Finalement, c'est très humain, le B2B, et c'est en ça que c'est...
En fait, c'est beaucoup plus irrationnel. En fait.
Ouais, c'est plus irrationnel, ouais.
Parce que, contrairement à ce que tout le monde dit, si je vais... par exemple, moi, je suis normalement constitué, je ne suis pas ChatGPT, mais si tu me mets dans un environnement que je ne connais pas, dans un métier que je ne connais pas, j'en sais rien, je vais dire la distribution de matériaux de construction, j'en sais rien. J'irai, si je suis moyennement constitué et que je ne suis pas trop bête, je vais pouvoir assez rapidement développer une expertise dans ce domaine. Mais je ne serai pas crédible. Parce que mon expertise, elle est dans l'IT, dans les télécoms, parce que j'y ai travaillé. Et encore, je ne suis pas un expert des télécoms, mais j'en connais suffisamment pour parler de certaines choses. Voilà, et on a certaines expertises dans certains domaines. Je suis peut-être pas trop mauvais dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage. Dans la maîtrise d'œuvre, bah, c'est plus moi. Et puis, si je vais parler de cybersécu, bah, il vaut mieux que j'ai un expert derrière moi parce que sinon, ça va dérailler. Je suis capable de faire un contenu autour d'un expert qui va parler de ça parce que j'ai suffisamment de vernis et je connais suffisamment le sujet. Mais tout seul, je n'aurai pas l'autorité pour parler sur ces sujets-là.
Alors, je pense que on va concevoir des questionnaires pour détecter qui sont les réplicants du content marketing comme dans Blade Runner où t'as le flic qui pose la question, je ne sais plus ce qu'il pose comme question pour savoir si la personne en face de lui est un robot ou pas.
Ouais.
Une sorte de tortue, qu'est-ce qui se passe si une tortue se renverse sur le dos dans un désert, enfin.
Oui, je dois avouer, j'ai dû écouter deux fois avant de comprendre effectivement ce qu'il racontait, oui.
Et alors du coup, c'est bon, on a fait une belle digression, mais c'est l'objet du podcast aussi. C'est vraiment chouette, surtout d'avoir tes insights. Et alors j'ai retrouvé le terme pour ceux qui s'expriment en ne connaissant pas du tout les sujets, mais qui parlent abondamment. Ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. L'ultra-crépidarianisme, l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas. Je vous mets la vidéo là avec Étienne Klein. Il taille bien sur le sujet, quoi.
D'accord.
Écoute, super. Alors, pour les outils, tu nous en as parlé un petit peu aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu organises ta veille? Tu nous as parlé d'Evernote. Est-ce que tu as des routines au quotidien?
Ouais, en fait, beaucoup plus dans le temps que maintenant. Quand je dis dans le temps, ça fait 20 ans que je fais des médias sociaux, donc ça commence à vieillir un peu, tout ça. Mmh. Il y avait un article dans Wired là, qui disait que c'était le mois dernier qui disait que en fait les premiers arrivants sur les médias sociaux aujourd'hui n'avaient plus nulle part où aller. Alors c'est pas tout à fait vrai pour le B2B, on a encore LinkedIn pour partie, à condition de suivre les bonnes personnes et de pas se laisser noyer par les selfies et les gens qui sont dans le développement personnel qui sont malheureusement 90% du contenu, et les copywriters et les donneurs de leçons. Donc, les gens qui ont envie vraiment de partager des contenus de fond, il y en a quelques-uns, je les ai cités en fait, hein, et c'est toujours les mêmes. Et là, effectivement, on arrive encore à trouver des contenus. Alors, Twitter, dont j'ai du mal à changer le nom, je crois que je ne suis pas seul.
Twix, je ne sais plus qu'est-ce qu'il me disait, c'est Twix, Twitter et X.
Ouais, chouchou. J'arrive à Non, ce n'est plus vraiment mon outil de travail, alors qu'avant le matin, c'était mon outil de travail du matin. Plus maintenant. Je ne sais pas, je suis bombardé d'informations, donc mon problème est plutôt d'essayer de ne pas en avoir trop plutôt que d'en avoir trop. J'ai une liste de choses à faire qui est importante pour mon blog. Et puis, je suis bombardé de communiqués de presse toute la journée. Et comme c'est un marché, en fait, les responsables de presse cherchent des gens pour parler de leur sujet. Et souvent, quand on est gentil avec eux, Ils te donnent des études de marché exclusives, des tas de choses qui sont des pépites, en fait. Des pépites. Mmh. Et qui sont souvent négligées par les journalistes qui font le tri et la fine bouche. Mmh. Et donc, du coup, rien qu'en récupérant certaines choses comme ça, on arrive à avoir des sujets très intéressants. Là, j'ai publié quelques études. Il y en a encore une qui va sortir sur le coût des leads sur LinkedIn. C'est des trucs qui sont fantastiques.
C'est quoi, c'est des livres blancs qu'on te pousse, c'est ça ?
Ils viennent à moi, en fait.
Ah ouais, d'accord. C'est... Ah oui, voilà.
Bah oui, en fait, donc j'ai pas besoin. Et après, je dirais, à chaque fois, c'est un problème de savoir où est-ce que, à chaque fois qu'on me pose cette question-là, où est-ce que tu trouves l'inspiration de partout et de tout le temps et de tout le monde. Voilà, il y a des notifications dans tous les coins. Un coup, c'est Flipboard. La minute d'après, c'est Frédéric Cavazza. La minute d'après, mm-hmm. c'est un gars qui va te dire « Mais t'as lu ce truc-là » La minute d'après, c'est un communiqué de presse, etc. Encore après, c'est un... comment dire Il va te mettre branché sur un... fait beaucoup ça aussi, on est souvent partenaire, là on va être partenaire de Tech for Retail, on a été partenaire de Paris Retail Week, on a des partenaires de Big Data AI, voilà, donc j'ai un média, c'est pratique, parce que l'information vient à toi quand tu es un média, en fait.
Oui, c'est ça qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que quand on a une expertise, une expérience depuis de plusieurs années sur la veille, en général, on a un flux qui est unique, un flux d'infos qui est absolument unique, qui est complètement induplicable. Et alors, tu as le flux déjà par réseau social qui est unique, mais si tu croises tous les flux que tu as entrant en sortant, enfin, et donc du coup, l'idée, ce que moi je vois pour quelqu'un qui veut être en veille, notamment sur les technologies émergentes ou autres sujets un peu d'innovation, c'est pas d'aller chercher le quoi, mais chercher le qui. Et c'est vrai que quand tu as repéré ceux qui, les subject matter experts, les experts qui font autorité sur une verticale, et ben, le jeu, c'est d'aller se pluguer pour aller les suivre eux. Voilà. Et finalement, après, leur flux arrive dans le tien. Et ça si tu fais bien cet exercice-là, en tout cas, moi, je l'ai commencé il y a quelques années. Mais du coup, en faisant cet exercice-là, ça apporte énormément de signal, quoi. Déjà, ça tue énormément de gens qui ne font que répéter ce signal-là, ouais, en gardant des sources un peu intéressantes, quoi.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai une règle sur le site, c'est que je ne traite jamais d'actualité. Sauf, bien entendu, j'ai fait comme tous les imbéciles il y a 15 jours, parce que c'était tellement énorme, j'ai traité sur le truc d'OpenAI, ouais, et parfois, je m'en suis encore mordu les doigts parce que c'était une information justement qu'il ne fallait pas traiter parce qu'elle a changé 3 fois dans la journée et plutôt dans la semaine, et elle peut changer encore 3 fois ou 10 fois dans les 3 jours qui viennent. Et ça n'a aucun sens, on s'en fout, c'est trop, on est trop dans l'émotionnel, il faut dépassionner, il faut prendre du recul, donc il faut dégager tout ça, tout ce qui est, je dirais, actualité, faut laisser ça aux échos, faut laisser ça aux journaux.
C'est le métier.
Leur métier, ils ont un tel flux, ils peuvent se permettre de dire blanc le lundi, noir le mardi, rouge le mercredi, et de recommencer. Ce qui est d'ailleurs assez pénible. Mais bon, c'est leur rôle, ils informent. Après, c'est à nous de trier ça. Faut dire bon, ok, là, prendre du recul. D'ailleurs, on comprend pas bien ce qui se passe, donc tant qu'on comprend pas bien, ben, on va le mettre de côté, hein, on verra plus tard. Voilà. Et d'ailleurs, je vais le retirer cet article parce que c'est ridicule.
J'aurais jamais. Bah après, comme tu dis, hein, il y a des choses qui méritent parfois un commentaire, quoi.
Oui, mais c'était un commentaire qui était à côté de la plaque en plus, non informé ou mal informé. Vous basez sur des informations qui n'étaient pas fiables, même qui venaient de gens fiables, mais elles n'étaient pas fiables. Bon, voilà. Donc, c'est. De toute façon,
Donc pas d'actu, quoi. Pas d'actu en général.
Tous les journaux ont essayé d'expliquer ce qui s'était passé, alors qu'on ne saura jamais si ça se trouve. C'est juste que Altman s'est engueulé avec Suskever, qui s'est engueulé avec machin, qui s'est engueulé avec Bidule. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la connerie naturelle.
Ben oui, oui. Et alors du coup, là, sur tes outils, tu nous parlais d'Evernote. Moi, je voudrais bien savoir la connaissance, en fait. C'est-à-dire, une fois que tu as un peu passé à travers quelques tamis, ça arrive comment, au point de vue connaissance, et tu gères comment, en fait, le résultat de tes articles? Est-ce que tu as un Notion? Est-ce que tu as un Google Drive? Comment tu capitalises? Comment tu documentes un peu toute cette... Ou est-ce que tu fous tout dans un endroit et tu...
Alors, j'ai un répertoire sur OneDrive et effectivement que je partage avec les gens dans l'équipe. Et puis, donc... C'est OneDrive, nous, parce que les clients nous ont imposé Microsoft, donc on travaille avec Microsoft. Donc, tant qu'on l'a payé, on l'utilise. Mais sinon, moi j'aime bien le SkyDrive, enfin, l'ancien SkyDrive qui est le OneDrive grand public, mais que je trouve mieux que le OneDrive pour business. Mais bon, voilà, on a OneDrive pour business, les clients nous ont cassé les pieds avec ça, donc on l'utilise. Google Drive, je l'utilise uniquement avec les start-upers et les indépendants, sinon ils font un cacamou parce qu'ils n'aiment pas Microsoft. Donc. Il faut s'adapter, mais les clients ils veulent que Microsoft, les autres ils veulent pas Microsoft, enfin bon, peu importe. Mais nous on utilise ça, j'ai un répertoire partagé qui est trié par date, 2023-11-15, etc. Et tout ça en fait au fur et à mesure, j'ai un fichier Excel avec tous mes articles en cours et ceux qui sont à faire.
D'accord.
Voilà, donc je sais, j'ai une liste d'attente, j'en ai toujours 7 ou 8 en attente. Mm-hmm. Et puis de temps en temps, je fais passer des trucs urgents comme les salons, les interviews urgentes.
Oui.
Je fais passer dedans. Puis tout ce qui peut attendre, je fais attendre un peu. Et quand c'est un client, bien entendu, ça passe en priorité devant tout le monde, bien sûr.
C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Alors du coup, ça va nous amener à parler des sujets que tu surveilles. Alors. On va avoir deux types de sujets. Tu as les sujets un peu chauds que tu es obligé un peu de suivre parce que tout le monde les suit. Puis tu as des sujets un peu plus de fond dont tu te dis qu'ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Alors, sur les sujets chauds, c'est quoi les sujets chauds que tu regardes en ce moment?
Et paradoxalement, les sujets qui sont intéressants, j'ai fait une présentation à l'ADTEM vendredi sur le Web3. Ouais. C'est intéressant parce que c'est un sujet qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. Donc, comme c'est plus du tout à l'ordre du jour, c'est là que ça devient intéressant parce que là, on peut raisonner tranquillement sans s'affoler, regarder les choses qui pourraient marcher, qui pourraient ne pas marcher. Le métavers, tout le monde s'est foutu du métavers. Tout le monde, on les entend tous ricaner. Ah, le métavers, c'est fini. Non, au contraire, justement, c'est maintenant que ça commence. Donc, j'ai fait un article sur ce sujet-là. Je dois avouer, j'y croyais pas moi-même avant de regarder les détails, mais après, je suis allé voir les chiffres. Et oui, bon, alors le métavers pour monsieur tout le monde qui va faire ses courses sur Internet, dans Facebook, non. Mais... pour une population de gamers ou de gens qui cherchent dont je ne fais pas partie, mais peu importe, le million et quelques qui utilisent Roblox, c'est pas nul. Tout le monde ricane aussi. Il y avait Second Life. Il y a plein de monde dans Second Life. Alors, j'ai donné tous les chiffres, d'ailleurs. Il faut que je retrouve ça. Il paraît que ça sert aussi de mythique, ce serait un mythe
de rencontre
virtuel, paraît-il.
Ouais, ouais. De site de rencontre. Ouais. Ouais. Non, mais il y a le futur du travail, qui y avait les univers immersifs. Il y a des cas d'usage qu'on a effleuré à peine fin du confinement.
Oui, bien sûr, mais il y en a plein des comme ça qui les sujets tech de toute façon sont des sujets récurrents. On pourrait parler du marketing omnicanal qui a rempli nos colonnes tant et plus, on en est encore très loin. Le content marketing, bon, ça c'est un sujet récurrent pour moi. Je regarde dans les sujets de génération et intergénération. C'est une sorte de marronnier qui revient tout le temps. Mm-hmm. Dès que j'entends un casse-pied qui nous ennuie avec la génération Z en racontant n'importe quoi, je lui ressors l'article. Les études marketing, c'est toujours un sujet intéressant. Le marketing collaboratif, ça reste que des sujets récurrents aussi. Les newsletters et l'emailing, ouais. Ça, c'est ouais. des sujets aussi qui sont intéressants et qui ne sont pas de l'IA générative. Toutes les technologies du retail... toutes les technologies du retail sont intéressantes aussi. Alors le métavers, bon, après il y a des sujets sur les médias sociaux, mais je pense que ça va commencer aussi à lasser un peu son monde. Et pour revenir sur ce que je disais, le temps que je retrouve mes chiffres, sur le métavers, tu vois, tu as des choses qui sont complètement inconnues. Il y en a un qui s'appelle Axie Infinity. Je connais même pas, hein, franchement. C'est un métavers où on peut.
C'est du pay to earn. Ouais. On est payé pour jouer là-dedans. Ouais.
Par exemple, tu as 1,5 million d'utilisateurs enregistrés quand même. C'est assez.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Voilà, The Sandbox, mm-hmm. 2 millions d'utilisateurs enregistrés. Mm-hmm. Et puis Roblox. Alors là, j'ai dit 1 million, mais je suis complètement à côté de la plaque. C'est 230 millions d'utilisateurs mensuels. Quand même, 230 millions.
Ah oui, Roblox,
tu vois, on n'imagine pas. Bon, celle-là, c'est la plus grosse, hein, c'est de très loin. Je pense qu'il doit y avoir plus de gens là-dessus que sur Horizon World, hein, je pense.
Ouais. Voilà,
donc, c'est voilà. Alors ça, c'est des sujets intéressants parce qu'on n'en parle plus. Donc, comme on n'en parle plus.
Oui, c'est là où ça devient intéressant de ça. De pouvoir rediscuter des sujets de fond parce que le bruit ambiant, c'est assez un peu... Ouais.
C'est un peu comme Warren Buffett qui disait « Le jour où mon chauffeur de taxi me parle d'investir en action, je revends tout. Ben, » c'est un peu ça, oui.
C'est pas mal, ça. Comme,
ouais. Il vaut mieux attendre que le chauffeur de taxi arrête de parler d'IA générative et là, on pourra commencer à en discuter sérieusement. Et ça ne sera pas forcément la même discussion que celle qu'on a aujourd'hui.
Mais tu vois, là, tu as évoqué deux types de sujets. Bon, il y a les technologies émergentes, univers immersif, métavers, Web3, etc. Mais jusqu'à il y a deux ans, enfin, de 2019, fin 2019 jusqu'à 2021, fin début 2022, on va dire jusqu'à l'annonce de Meta, de son métavers en septembre 21. Le sujet, c'était la créateur économie. Le sujet, c'était, tu te rappelles, hein, c'était quand même ça, hein, pendant le confinement, tout le monde va devenir créateur. Et donc, il y avait tout un tas de tech, alors tech, emerging tech, non, mais de tech, oui, pour rendre les gens, les hommes, leur permettre eux-mêmes de devenir leur propre média. Et ça, ça a été complètement... ça n'a pas disparu, mais... ça a été passé sous silence et on en parle.
La période est tellement particulière.
Ouais, elle a un temps d'attention.
Fait tourner les gens en rond sur eux-mêmes. Ils se sont mis à imaginer des trucs, le monde d'après, le monde d'avant, je ne sais pas quoi encore.
Ouais.
Moi, ce qui m'avait pas fasciné à cette époque-là, c'était le développement de la webconférence parce que j'en ai été un pionnier dans les années 2000. Et donc, puisque j'ai signé le contrat avec WebEx pour un grand opérateur mondial, et donc j'utilise ça depuis 20 ans, et à chaque fois que je disais aux gens, mais arrêtez d'envoyer des mails, faites une webconférence, vous résoudrez votre problème en 5 minutes et on n'en parlera plus, à chaque fois on me disait que j'étais fou. Donc d'un seul coup, c'est devenu le truc à la mode, tout le monde faisait ça, on a fait des apéros Zoom, au point que j'en ai pris 10 kilos, et puis, ça m'a bien saoulé d'ailleurs, ça, au passage. Sans jeu de mots. Au bout d'un moment, là, on arrive aujourd'hui, ça y est, c'est la Zoom fatigue. C'est reparti à nouveau, ça ne marchera jamais, etc. C'est le côté saoulant, je trouve, de notre métier. C'est le circulaire. Avec des gens qui racontent n'importe quoi et ouais. de préférence pas basé sur des chiffres. Quoi. Après, oui, mais sur, avec une web conférence, on est saoulé au bout de 50 minutes. Avec une réunion physique, je suis saoulé au bout d'une demi-heure, donc je vois pas pourquoi. Voilà.
Et sur tous ces sujets tech, futur du travail, j'imagine que tu te joindras à moi pour qu'on recommande chaudement le blog, bah, tu l'as cité, The Village de Xavier de Masneau, qui est vraiment super.
Oui, bien sûr.
Un super blog qui traite de tout ce qui est
New Wave. Newsletter.
Et la super newsletter. Ouais, qui,
Je l'alimente d'ailleurs régulièrement en information.
Bah oui, non, c'est il y a de la tech à surveiller aussi sur tous ces sujets-là.
Ouais.
Alors là, on a parlé des sujets un peu chauds, bon, qu'on est tous obligés de suivre. C'est quoi tes sujets un peu de cœur ou tes sujets de fond que tu grattes plus que les autres et que dont tu te dis voilà, ils vont pas disparaître du jour au lendemain.
Oui. Bah, moi, comme j'ai dit, je crois au contenu d'autorité. Donc, on a créé pour cela un label qui s'appelle le label 100% humain. Faut que je remette d'ailleurs le logo sur mon site parce que j'ai changé la maquette et il faut que je remette ça dans les... Il faut que je refonde un peu mon sidebar. Donc, c'est un peu compliqué, mais il faut que je le fasse. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un web ring à l'ancienne.
C'est quoi un web ring?
Un web ring, communauté. Là, c'était une invention du web 1.0 où il y avait des blogs qui se cooptaient et qui s'en renvoyaient les uns sur les autres.
Ah, mais c'est ce que fait Substack aujourd'hui. Enfin, je crois qu'il y a une feature Substack sur. Ouais.
Ça, c'est un web ring. Substack, c'est encore une fois une plateforme qui prend ton information et qui te fait croire qu'elle va te donner quelque chose. Et puis un jour, elle va retirer l'échelle et elle va t'amener l'addition.
D'accord.
Donc, moi, je pense qu'il faut sortir de ça parce que au bout de la 15e fois qu'on nous fait le coup, stop, quoi. Le contenu, il est à nous. C'est nous qui l'avons créé. Donc, oui, on le met en Creative Commons, mais arrêtez de nous le voler, quoi. Stop.
Ouais. Et c'est quoi ce webring alors? C'est autour de cette idée de ne pas faire du contenu avec de l'IA, c'est ça?
Exactement. Alors, on le labellise pas comme ça, c'est à l'envers. On essaie de le phraser plus positivement. Du contenu créé par des humains.
Oui.
Oui, mais c'est important parce qu'on est tous des acteurs de l'IA, donc on ne va pas commencer à dire l'IA, c'est pas bien.
Oui.
Il faut, et on en revient à nos histoires d'outils. Il faut se focaliser sur les outils discrets. Donc, par exemple, un outil de transcription vocale, ça fait 20 ans que j'écris des bouquins avec, je ne pense pas que l'outil de transcription vocale va remplacer l'humanité. On s'en fout, ce n'est pas le sujet. C'est un outil qui fait bien ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire transcrire une phrase, parler. Voilà. Alors, soit un enregistrement... avec Trint ou avec Word, en isolant les différents speakers. Word le fait aussi, hein, très bien.
Ça, je n'ai pas testé Word. Ça, je vais faire
un
foulé de ce podcast.
Ouais. Ça marche très bien. On met son MP3 et il sort directement les différents speakers et il fait la transcription très bien. Dictate, c'est l'environnement iOS, mais il y a l'équivalent en Android. Que j'utilise aussi beaucoup. Je vais dicter sur mon téléphone, je le retrouve sur mon ordinateur. Voilà. Bon, ça, c'est des outils discrets. Nebo, que je vais utiliser pour transcrire mon écriture manuscrite. C'est remarquable. Il arrive même à mieux lire mon écriture que moi-même, hein, c'est tout dire.
Nebo,
il est bon. Hein. Donc, voilà. Nebo, c'est aussi un outil qui me fait gagner beaucoup de temps. Voilà, ça me fait pas frémir que ça va remplacer le monde ou que ça va devenir plus intelligent que moi. C'est pas l'objectif. Non, c'est un outil qui remplit son rôle et qui me permet d'aller beaucoup plus vite et de mettre 2h30 là où je mettrais 5h ou 6h. Selon le cas. Parce que si j'ai besoin de beaucoup de réflexion, de réfléchir à ce que je vais dire, bah, je vais plutôt avoir tendance à le faire à la reconnaissance de l'écriture sur ma tablette. Ou même des fois au papier, et puis après à le dicter, vraiment, si c'est vraiment, vraiment très complexe. Et puis, si je sais tout, je fais tout de mémoire, parce que bon, une retranscription. J'ai fait mon plan et puis je sais ce que j'ai à dire. C'est basé sur mon expérience, sur mon expertise. Bon, alors là, je connais toutes les anecdotes. J'ai plus qu'à y aller, quoi. Donc, j'y vais directement comme si je dictais à une secrétaire. Voilà. Ah, je vais faire une note pour un compte-rendu. Bon, soit je vais la taper directement ou si je n'ai pas envie d'être perturbé à taper pendant que quelqu'un me parle, bah, je vais le faire en reconnaissance de l'écriture ou je vais le mettre au papier puis après je vais le faire en reconnaissance vocale. Voilà. Je vais utiliser un outil discret comme ça qui fait quelque chose de simple. Je vais faire utiliser un outil de correction grammaticale. C'est pareil, l'outil de correction grammaticale ne va pas remplacer l'humanité. Hein. C'est un outil, c'est tout. Et c'est efficace parce que la grammaire est compliquée. La ponctuation, oui. Je suis incapable de faire de la ponctuation correcte. Donc, je laisse ça à la machine. La machine ponctue correctement. On a fait tout le bouquin. Il a été relu déjà 5 fois. On a quasiment pas corrigé une virgule parce que toute la ponctuation était nickel chrome. J'étais déjà passé sur tous les trucs avant de le donner à la relecture. La relecture, pour relire, ça c'est très important de relire plein de fois. D'abord, je relis manuellement et là, c'est désastreux. Je refais une relecture avec Druid, un outil canadien qui me permet de faire la correction grammaticale et de vocabulaire. Et il va me souligner les phrases qui sont un peu bizarres ou les choses comme ça. Souvent, il se trompe, mais souvent, il met le doigt sur des choses qui ne vont pas, des phrases mal écrites, des choses comme ça. Et après, le dernier effet qui se coule, je reprends l'article et je vais le mettre en lecture vocale par l'ordinateur. Donc, il va me le relire à voix haute et je vais. Puis, même des fois, après, j'enregistre le podcast et quand j'enregistre le podcast, je corrige encore des phrases. Donc,
mais tu vois, le côté à voix haute, je crois que c'est Balzac au 19e siècle qui s'appelle.
Non, c'est pas Balzac, c'est l'autre.
C'est l'autre, le gueuloir, c'est ça.
C'est le gueuloir de Flaubert.
Le gueuloir de Flaubert, ouais, pardon. Voilà. C'est hyper utile, ça te permet de voir tout de suite si c'est digeste ou pas, quoi.
Voilà, et ça peut se faire automatiquement par l'ordinateur, par la reconnaissance vocale. Word fait ça, macOS fait ça, Windows fait ça, enfin tout le monde fait ça. Donc c'est des outils qui sont très simples, très basiques, mais qui sont très efficaces. Voilà. Alors, par contre, écrire un article automatiquement en 30 secondes, et ça, effectivement, c'est extraordinaire. Mais si après, si je mets 3 heures pour essayer de corriger ce qu'il dit et pour essayer de colmater les trous et puis de me récupérer un texte qui est écrit avec les pieds complètement empoulé et qui finit toujours par en résumé, virgule. Non, mais bon, stop, quoi.
Mais là, je suis d'accord avec toi, passer son temps à recadrer l'outil. Pour avoir quelque chose de... Bah, c'est effectivement ce que je vis. Quand tu écris un peu de contenu, tu aperçois que sur ChatGPT ou autre, tu passes ton temps à recadrer. Quoi. Donc à la fin, quand tu as l'idée claire dans ta tête, c'est ce que tu disais au début de l'émission, fais-le. Quoi. Fais-le juste direct. Quoi.
Il vaut beaucoup mieux être très bien organisé. Et bon, j'ai pas mal de défauts, mais je n'ai pas celui-là. Je suis très, très organisé. Et donc, mes outils ne sont peut-être pas très sophistiqués. Je ne cherche pas l'outil le plus sophistiqué, je cherche l'outil le plus efficace. Donc, la reconnaissance vocale sur Dictate, c'est 99% de reconnaissance. Sur Trint, pareil. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réécrire. Derrière, on réécrit, mais c'est fait de qualité. Quoi. C'est fait dans la qualité, dans un souci de qualité. Et ça, c'est très important. Google, lui, est un petit peu meilleur que, contrairement à ce que tout le monde dit, que ChatGPT. Ah, non, tout le monde ne jurait que par Google avant. Et maintenant, tout le monde... J'ai même fait des ateliers la semaine dernière à Tunis où je les ai fait utiliser Bard parce qu'il est gratuit. Et ben non, il retournait sur ChatGPT. Alors maintenant, tu demandes aux gens d'utiliser Google et ils ne veulent plus. C'est intéressant, hein.
C'est comme Yahoo à l'époque. Les gens, il y avait Yahoo ou AltaVista. Et pourtant, tu allais sur Google. Parce que je me rappelle de cette époque où tu avais des super trucs qui étaient pertinents et finalement, tu atterrissais tout le temps sur Google.
C'était pas idiot à cette époque-là parce que Google avait un véritable avantage sur les autres moteurs de recherche, y compris Yahoo, surtout oui. Yahoo. Mais là, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais bon, c'est pareil. Sur les moteurs de recherche, tu peux toujours expliquer aux gens que DuckDuckGo, c'est meilleur, et c'est meilleur. Mais non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Hein, c'est tout. Ils veulent pas. Voilà, c'est comme ça. Ils retiennent qu'un le grand public, de toute façon, grand public B2B ou B2C, peu importe, c'est les mêmes. Ils retiennent un mot, ils retiennent un nom, ils retiennent une marque, c'est tout. Donc, et là, ils ont retenu ChatGPT, OpenAI et Google, poum, dégagé. Quoi qu'ils fassent. Mais il est bien Google Bard. Donc, j'ai utilisé Google Bard. Et quand tu demandes un truc sur Internet, il y a un bouton pour vérifier ton contenu. C'est le bouton G, là. Il ne marche pas tout le temps. Ça dépend ouais. s'il est allé chercher sur Internet ou pas. Et quand tu cliques dessus, il surligne en marron tout ce qui est un peu foireux. Et il souligne pas mal de choses en marron, oui.
Mais c'est, ça, donc, ça, c'est ultra précieux.
C'est partout ouais, ouais. où il y a un pourcentage de...
De chances que ce soit pas...
C'est comme c'est des statistiques, il sait quel est le pourcentage de fidélité, quoi. Donc, il dit, bon, voilà, j'ai rajouté des trucs ici, mais bon, le pourcentage...
Ouais, je suis pas
surtout,
sûr.
Et souvent, les chiffres sont complètement à côté de la plaque. Ou alors, c'est, ça, Bing aussi sait faire aussi. Il donne des citations et il mélange les citations.
Ouais.
Il va te donner un lien qui correspond à une citation qui est différente. Enfin, donc, tu passes tout ton temps à essayer de redémêler les fils. Aucun intérêt, autant faire une bonne recherche sur Internet. Ou alors, utiliser un outil spécialisé comme Perplexity.ai.
Connais pas Perplexity.
Ouais, c'est pas mal, ça permet de faire des listes de liens. Voilà. Et puis c'est tout, point barre, c'est tout. Il a fait les listes de liens et après tu lis. Voilà.
Bah oui, après il faut.
Après il faut.
Alors, Bard, très intéressant le côté je suis moins black box que les autres, quoi. Je suis un peu plus transparent sur comment je.
Ouais.
C'est peut-être ça l'avenir de la Gen AI, c'est que ce soit des IA génératives qui soient un peu plus transparentes sur la manière dont elles restituent les infos.
La messe est dite, ils sont plus dans le, ils sont plus dans le paysage, c'est fini. Le grand public a retenu un nom, point. C'est tout.
Oui.
Des chats GPT, il y en a des centaines. Il y a Claude, il y en a plein. Il y a Writer, il y en a des tonnes et des millions, mais non.
Chat c'est GPT. Celui-là qui, ouais, winner.
La loi de Zipf.
C'est ça. Alors on va terminer quand même sur. Alors c'est plus que tes sujets de cœur, là, ça, c'est ton actu à toi. Donc, tu nous disais au début de l'émission que tu étais sur le lancement d'un nouveau bouquin fin d'année. Donc, marketing, oui. Le marketing de A à Z, c'est ça le marketing?
Marketing digital de arrobas à Z.
De arrobas à Z, oui.
Oui, et on trouve sur toutes les bonnes chaînes avec le mot-clé MDAZ. MDAZ comme marketing digital de @AZ.
Voilà. Donc là, on peut le précommander, c'est ça?
On peut le précommander. Alors, je te donnerai le lien. Il existe déjà. Hein, c'est comme ça. Et @AZ.
@AZ
avec un seul L. Bon, c'est un peu foireux mon truc. Mais... voilà. vismktg.info/@AZ avec un E majuscule. Voilà. Et il est déjà disponible à précommander. Il sort en janvier, février 2024. J'espère janvier parce que ce marché évolue tellement vite. Et là, le bouquin est fini. On a même. Alors, le texte de la quatrième de coup, en fait, c'est l'éditeur qui le fait, donc il ne touche pas. Les rabats sont faits. On a ajouté nos bios, etc. Ben, on a mis les photos. Enfin bon, après,
Vous êtes combien à rédiger ce bouquin? Vous êtes,
Alors, nous sommes deux avec Hubert Kratirov.
D'accord.
Qui est mon camarade. On se complète bien en plus parce que lui est plus technologue que moi. Mm-hmm. En même temps, il est marketeur aussi, mais bon, on se complète bien. Il est un peu plus technique que moi, et même beaucoup plus technique que moi. Donc, on se complète bien. C'est, d'ailleurs, je conseillerais le chapitre 14 sur le Web3. Et il est très intéressant, justement, parce qu'on va au-delà des poncifs et il rentre très dans le détail, Hubert, là-dessus, et c'est très intéressant. Donc, il y a tout un chapitre, justement, sur les technologies émergentes. Il y a toute une grande partie sur le content marketing et une grande partie aussi sur le marketing des communautés. Ça, c'est nouveau, c'est des sujets que j'ai beaucoup travaillé, notamment en cours, pendant près de 15 ans, même plus de 15 ans.
J'ignorais.
Et j'avais jamais écrit sur ces sujets-là, bizarrement. J'avais jamais vraiment fait de... Alors, il y avait des petits bouts par-ci, par-là, mais je n'avais jamais fait une partie complète sur le marketing des communautés et le marketing du bouche à oreille. Donc là, voilà, le mal est réparé.
Alors ça, le community-led growth, comme on dit, et c'est ce marketing de communauté. Où...
Ouais.
Ça, c'est un sujet que j'ai particulièrement adoré creuser pendant le confinement. Alors, il y a un podcast que je conseille souvent, qui est Communo. Alors, Communo, c'est un podcast qui parle du community building, notamment qui essaye de former, propose une formation de community builder en France. Je crois que c'est les seuls d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, j'ai lancé un podcast il y a 2-3 ans qui s'appelle Aujourd'hui. J'ai changé le nom parce qu'il a fallu faire des choix éditoriaux, mais ça s'appelle Many to Many. Et en fait, je suis allé à la rencontre de pas mal de community builders pour leur demander les outils qu'ils utilisaient. Mais alors, tu vois, ce sujet-là, il est un peu disparu, tu vois, je trouve. On parlait vachement de community building il y a un an, 2 ans. Et puis, ça a été pris par le Web3, en gros. J'ai l'impression que le Web3 a pris tout le sujet community building. Et après, le côté, faites votre communauté autour d'un SaaS, autour d'une marketplace, autour de votre business. Un peu disparu, quoi.
C'est-à-dire, ce sujet-là, il a été dévoyé par le growth hacking.
Ouais.
Et qui n'est finalement que la face obscure du marketing des communautés.
Oui.
Celle qui consiste à essayer de profiter des gens au lieu d'essayer de leur profiter. Et du coup, on a malheureusement... perdu le nord comme d'habitude en faisant plus de technologie et plus de putaclic, si je puis me permettre, versus s'intéresser aux autres et essayer de leur apporter de la valeur. Et je pense que finalement c'est ça aussi qui va être l'impact des IA génératives, c'est que à force de générer des tas de boue, on va avoir envie de et c'est pareil aussi des médias sociaux. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On se retrouve sur WhatsApp en fait.
Et Dark Social, on en parlait avec Laura Bokobza la semaine dernière. Ouais.
On se retrouve sur WhatsApp, on se retrouve sur nos communautés, on se retrouve sur notre newsletter, on échange avec nos camarades. Là.
C'est ça.
Voilà, on est en train de créer l'annuaire du qui est qui du numérique 2024 avec David Fayon, qui sera une sorte de ouzou. On n'a pas le droit d'utiliser le mot, mais.
Intéressant, oui.
Du numérique, enfin, c'est la première version, donc il n'y aura pas tout le monde dedans, bien entendu, mais il y aura une centaine de fiches. Voilà, c'est une façon de recréer une communauté de gens qui se cooptent et qui sont des acteurs du numérique, etc. Voilà, c'est le projet 100% humain, c'est aussi un début de communauté. Le Webring, je pense qu'il faut retourner à ça, retourner à ces communautés, arrêter les frais avec les gens qui essayent de profiter de nous, qui nous volent nos newsletters, qui nous volent nos contenus, récemment, LinkedIn a dépassé les bornes en produisant des contenus.
Ah oui, la feature, la LinkedIn communautaire.
Voilà. Et en essayant de te faire miroiter que tu vas devenir un auteur célèbre, alors que en fait, ils s'en foutent complètement et ils te font. En fait, tu deviens esclave de la machine, quoi. L'humain devient l'esclave de la machine. Il faut arrêter ça. Il faut dénoncer ça et il faut se battre contre ça parce que c'est nul. En fait, de toute façon, ça disparaîtra comme tous les trucs qu'ils font. Comme ils ont déjà fait avec les articles, ils ont déjà fait ça avec les newsletters. Enfin, ils passent leur temps à créer des trucs qui tuent derrière. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui les intéresse, c'est de vendre de la pub. Donc, ils vendent de la pub. Et le résultat, c'est quoi? C'est le prix d'un lead sur LinkedIn, c'est $123.
C'est énorme.
Et en $123, il y a un mec qui a trouvé, j'écrirai bientôt, qui a trouvé une astuce, c'est qu'il a carrément, il dit, tant qu'à donner $123, j'envoie directement $123 à chacun des prospects à qui j'ai envie d'écrire. Pas déchirer l'enveloppe. Hein.
Non.
vous valez $123. Plutôt que de les donner à LinkedIn, je vous les offre.
Ah, t'attires plus l'attention. Quoi. Ouais, c'est...
Oui, c'est une technique de bouche à oreille encore. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est intéressant à plusieurs niveaux, son truc.
Ouais. Alors, je ne pensais pas terminer l'épisode sur l'ownership, parce qu'il s'agit de ça. Quoi. C'est un peu...
C'est important. Alors, tu passes 20 ans de ta vie à créer des contenus, tu n'as pas envie qu'il y ait quelqu'un qui te les vole et qui en profite. À la limite, qui te les vole pour partager... c'est fait pour ça, mais qu'ils les volent pour en profiter, ça, c'est pas bien. Ça.
Mais, tu vois, l'ownership, c'était très à la mode, encore une fois, fait partie de tous ces sujets créateur économie, tout ça, qui était très, très... dont on parlait beaucoup il y a 2-3 ans pendant la période pandémique. Et en fait, tu vois, moi, le virage que j'ai vu le plus odieux en la matière, tu vois, c'est tout ce toute cette vague d'influenceurs qu'on qualifie aujourd'hui de créateurs, c'est quand même odieux parce que tu te dis qu'il y a un mouvement qui est né quand même, la passion economy, c'était comme ça qu'on l'appelait au départ, de se dire on va s'opposer au modèle de l'influence et au modèle de la pub pour aller sur un modèle où chacun va pouvoir être propriétaire de son contenu, de son audience, etc. Et c'est comme ça que la créateur economy est née, en opposition. Et aujourd'hui, quand tu tapes créateur économie, le mot qui vient après, c'est influenceur. Tu te dis, mais c'est quand même incroyable, quoi. Tu t'es battu contre ce modèle-là. Et ce que tu dis avec la feature de LinkedIn qui vient de sortir, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je la mettrai, on en a parlé sur un épisode précédent, qui pousse un moyen de crowdsourcer en fait, tout un tas d'informations qui incitent les auteurs sur LinkedIn à réagir sur des posts qui sont limite générés par de l'IA. Et qui dans le contenu n'est plus à vous, quoi. Et on revient sur cette façon de faire du user generated content, mais qui ne vous est pas profitable en fait finalement.
Ouais.
C'est
j'aime pas tellement ce terme de community building parce que ça veut dire on construit une communauté alors qu'en fait on fait juste que la fédérer, la communauté. C'est pas donc là ça c'est pas une communauté. Ce que fait LinkedIn, c'est il fait du marketing de plateforme en profitant d'un grand flux et de la crédulité des gens qui l'utilisent. Et j'en fais partie puisque j'ai contribué comme un idiot en croyant faire, bien faire. C'est n'importe quoi, en fait. C'est se moquer des gens. Et ça, c'est pas bien. On ne fédère pas une communauté en profitant de la crédulité des gens. Ça, c'est du growth hacking. Ça, je ne dirais pas ce que j'en pense, c'est 5 lettres. Voilà. Et d'ailleurs, je règle le sujet, on ne parle pas du growth hacking dans le bouquin. On lui règle son compte dans un cartouche parce qu'à mon avis, ça ne vaut pas plus. Pour moi, c'est juste du marketing. Ça équivaut à ce qu'on faisait dans le temps, dans la vente des encyclopédies à des petites vieilles en leur extorquant de l'argent et en mettant le pied dans la porte. C'est pas beau, quoi. C'est pas beau.
C'est pas ça, le community building. Ouais, bien sûr.
Pas ça. Comme faire du marketing des communautés, c'est s'intéresser aux autres avant de s'intéresser à soi.
Ah, super, super fin, super atterrissage sur cet épisode. Bah, merci Yann, t'étais très généreux, tes insights sont hyper précieux sur toute l'expertise que tu as sur l'innovation, le digital, le marketing, tout ça. Donc c'est
je pense que les sources que
tu m'envoies le lead LinkedIn, et je vous partage vous retrouvez toutes les sources partagées par Yann sur techsource.io et je vous dis à un prochain épisode de TechSource.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour retrouver toutes les sources de cet épisode et découvrir d'autres invités, rendez-vous sur techsource.io. Cette émission est produite par le studio de podcast AirParty. AirParty, c'est aussi Planet Creators, le podcast de la Creator Economy, mais également Many to Many, l'émission des communautés augmentées. Pour retrouver toutes les émissions du studio, direction airparty.io. À très vite.